Bonjour. Est-ce que vous avez eu, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais est-ce que vous avez eu la joie, voire la déception de recevoir un PV pour un excès de vitesse ou mauvais stationnement? Comment est-ce qu'on réagit? Si vous êtes comme moi, pas coupable, nous nous excusons. Ah, mais la limite de vitesse n'était pas bien indiquée. Oh, je n'avais pas compris les indications pour le stationnement. Sinon, nous nous justifions. Ah, mais quand même, j'étais pressé. Mais j'ai toujours bien conduit, c'était la première fois. Et devant Dieu, est-ce que nous nous excusons, est-ce que nous nous justifions devant Dieu? L'enjeu est sérieux, parce que comme Maxime nous a rappelé, la colère de Dieu se révèle contre toute impiété et toute injustice des hommes qui rejettent Dieu et qui remplacent Dieu. La semaine dernière, nous avons vu que le jugement de Dieu tombera sur l'hypocrite qui accuse les autres, sur le païen qui joue la carte d'ignorance et aussi sur le juif qui joue la carte de privilège. Car chacun rejette et remplace Dieu. Et chacun a besoin d'un nouveau cœur. Alors si chacun a besoin d'un nouveau cœur, quelle serait la réponse juste? On devrait prier, Dieu, donne-moi un nouveau cœur. Mais comme nous allons voir dans notre texte de ce matin, nous suivons une autre réponse. Nous disons, pas coupable. Je vais passer la parole à Benoît pour la lecture du texte.
Dans Romains, au chapitre 3, quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. Comme cela est écrit, ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ici à la manière des hommes. Certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? Quelques-uns, pour nous calomnier, prétendent que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché.
Je vais prier. Ainsi, tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Notre bon Père Céleste, par ton Esprit Saint, donne-nous à écouter la justice de tes paroles. Donne-nous à comprendre la justesse de tes paroles et que nous savons à bien réagir à ton jugement pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Pas coupable, c'est notre premier titre de ce matin. Pas coupable. Et je vous demande de vous accrocher bien parce que ces premiers versets sont assez difficiles, mais ils ont un avertissement important pour nous. Devant la réalité du jugement qui va tomber même sur le juif, on rétorque au verset 1, quel est donc l'avantage des juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Parce que si le juif est jugé comme le païen, au pire, si, comme nous avons lu dans le verset 26 et 27 du chapitre 10, du chapitre 2 de la semaine dernière, si l'incirconcis qui respecte la loi sera considéré comme circoncis et va condamner le juif, quel est donc l'avantage des juifs? Les juifs ont beaucoup d'avantages. Et c'est là où l'accusé se lève pour se prendre au juge avec trois accusations. Okay? Dans les versets 1 à 8, je pense qu'il y a trois accusations. L'accusé se prend au juge avec trois idées. D'abord, il suggère que Dieu est infidèle. Ensuite, il suggère que Dieu est injuste. Et ensuite, il suggère que Dieu a besoin de lui. Okay? Et on va regarder ces trois lignes de défense, une après l'autre. Donc d'abord, Dieu est infidèle. Verset 2, c'est à eux, le peuple juif, que les paroles révélées de Dieu ont été confiées. Alors, que dire si quelques-uns ont été infidèles? Leur incrédulité annulera-t-il la fidélité de Dieu? Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est lié au peuple juif par alliance. Mais quelques-uns n'ont pas cru. Et je pense que quelques-uns, c'est une sous-estimation. Si Dieu les jugeait, est-ce que Dieu serait infidèle? Certainement pas. Dieu est vrai. Dieu est juste. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu n'empêche pas le jugement de Dieu. Prenons un exemple d'une autre alliance, le mariage. Un homme s'engage envers sa femme. Il s'engage pour être fidèle envers son épouse. Si l'homme est infidèle, s'il commet l'adultère avec une femme, est-ce que son épouse, est-ce qu'elle a été infidèle? Certainement pas. Si la femme réagit avec la colère, avec la jalousie contre le mari qui l'a trompée, est-ce qu'elle est infidèle? Certainement pas. Prenons un autre exemple, parce qu'au verset 4, Paul cite le roi David. Le roi David, un juif par excellence. Mais David n'a pas fait son boulot de roi. Il a commis l'adultère avec une femme. Il a fait en sorte que l'homme meure. David a été infidèle envers Dieu. Et Dieu a jugé David. David a souffert le jugement de Dieu. Et Dieu a-t-il été infidèle envers David? Certainement pas. Et David reconnaît devant Dieu. Dans le verset 4, qui est une citation du psaume 51, David dit ainsi: tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. David reconnaît que Dieu a raison de juger. La fidélité de Dieu n'empêche pas le jugement de Dieu. Okay? Donc, première accusation, première ligne de défense, Dieu est infidèle? Non. Deuxième ligne de défense. Ah ben Dieu est injuste de juger. Imaginez s'il vous plaît. Nous sommes au palais de justice et le juge vient de prononcer son jugement. Alors l'accusé se lève pour dire: Monsieur le juge, je reconnais que tu as été très juste dans ton jugement. Tu t'es montré. Vous vous êtes montré un juge impartial, vous avez respecté, monsieur le juge, la loi à la lettre. Parce que je vous ai permis de vous montrer un juge impartial qui respecte la loi, ce serait injuste de me laisser subir votre jugement. Mais ce serait farfelu pour l'accusé de répondre d'une telle sorte. Et nous voyons la même chose au verset 5. Si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Paul reconnaît que c'est farfelu. Je parle ici à la manière des hommes. Et Paul rappelle que Dieu va juger le monde. Dieu va juger le monde. Alors s'il va juger le monde avec sa justice, pourquoi serait-il injuste pour juger aussi le juif? Non, la justice de Dieu n'empêche pas le jugement de Dieu. Alors, on passe à la troisième ligne de défense. Dieu a besoin de moi. Donc, revenons au palais de justice. Maintenant, l'accusé se prend au détective. Okay? Il se tourne vers peut-être Monsieur Poirot. Monsieur Poirot, monsieur le détective, je reconnais que vous êtes un détective brillant. Vous vous êtes montré infatigable dans vos investigations. Et parce que, monsieur Poirot, le détective, parce que je vous ai permis de vous montrer un détective intelligent, brillant, franchement, vous avez besoin de moi. Et donc, je vais continuer à commettre encore plus de crimes. Mais non, ce serait tordu. mais le verset 7. Si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? Et Paul n'accorde même pas la dignité d'une réponse. La condamnation de ces gens est juste. La vérité de Dieu et la gloire de Dieu sont parfaites. Je ne peux pas ajouter à la gloire ou la vérité de Dieu. Et quelle folie de penser que je pourrais rendre service à Dieu avec mon péché. Pas coupable. Et on ici entend trois lignes de défense pour esquiver le jugement de Dieu. Dieu serait infidèle, Dieu serait injuste, Dieu aurait besoin de moi. Si ça vous semble compliqué, si ça vous semble difficile à comprendre, vous n'avez pas tort. Je pense que c'est un peu tiré par les cheveux. Parce qu'on essaie d'esquiver le jugement de Dieu. On essaie de retourner l'accusation contre Dieu. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et est-ce que nous essayons de faire la même chose? Est-ce que nous essayons aussi d'esquiver le jugement de Dieu? Peut-être avec une ligne de défense, la fidélité de Dieu. Alors Dieu, mes parents, ils sont chrétiens. Ça ira? Tu seras fidèle à mes parents? Ou peut-être nous essayons une ligne de défense, la bonté de Dieu. Même le bon Dieu, il me pardonnera. Essayons-nous la ligne de défense, la souveraineté de Dieu. Ah ben Dieu, si tu m'as fait comme cela, c'est ta faute. Non. Si nous essayons de dire pas coupable, la réponse revient. Si, tout sont coupable. Et c'est notre deuxième titre pour ce matin. C'est la réponse de Paul à partir du verset 9. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Non seulement juifs et non-juifs pêche, c'est-à-dire ils rejettent Dieu et ils remplacent Dieu. Mais ils sont aussi sous l'emprise du péché. Leur coup d'état de vivre sans Dieu les a rendus esclaves. Une addiction de vivre sans Dieu et contre lui. Et la chaîne de citations de l'Ancien Testament que nous avons ici en italique confirme la largeur du péché et aussi la profondeur de notre péché. La largeur, car tous sont inclus. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, même pas un seul. Nous voyons la largeur, mais aussi la profondeur, car c'est l'ensemble de l'être humain qui est impliqué. Le gosier, la langue, les lèvres, la bouche, les pieds, la connaissance, les yeux, tout l'être humain est impliqué dans des actes, ou des paroles ou des pensées contre les autres qui confirment notre rébellion contre Dieu et l'emprise a du péché. Pas coupable? Si. Tu sens coupable. Mais je pense que nous avons besoin de nous ralentir pour un moment. Parce que si vous vous enquêtez sur la foi chrétienne, ou si vous êtes là pour la première fois, nous sommes heureux que vous soyez là. Et peut-être l'universalité de ces paroles rebute. Il n'y a pas de juste, vraiment. Aucun n'est intelligent. C'est sérieux, Paul, c'est un peu extrême. Aucun qui fasse le bien. Ne faut-il pas mettre un peu d'eau dans le vin? Et même si nous nous disons chrétiens, nous pouvons avoir du mal avec ces versets aussi. Aucun ne cherche Dieu. Quand même, je pense à mon voisin, un bouddhiste. Ne cherche-t-il pas Dieu? J'ai quand même cherché Dieu, n'est-ce pas? Alors, faisons attention, ne commençons pas à nouveau d'esquiver le jugement de Dieu. Il n'y a pas de juste, car Dieu seul est juste dans toutes ses actions. C'est lui le standard et non pas notre justice humaine. Aucun ne cherche Dieu. Je pense parce qu'on cherche des dieux qui nous conviennent. On cherche des dieux qui nous plaisent et qui nous réconfortent et non pas le seul vrai Dieu qui dérange. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, car toutes les actions humaines sont mixtes, viennent d'un cœur impur. Dieu seul est bon dans tout ce qu'il fait. Pas coupable? Si. Tu sens coupable. Donc arrête de te justifier. Arrête de te justifier. Et c'est notre dernier titre pour ce matin. Le verset 19. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Les citations que nous venons de lire de l'Ancien Testament sont adressées à ceux qui vivent sous la loi, aux Juifs. Et effectivement, dans leur contexte, elles sont toujours adressées au peuple juif. Mais Paul cite ici la loi. Paul cite ici la loi afin que toute bouche soit fermée, la mienne et la vôtre. C'est un argument à plus forte raison. Si même le juif avec tous les privilèges, avec la loi de Dieu, si même lui est coupable devant Dieu, alors à plus forte raison, moi aussi, je suis coupable devant Dieu. Si même le juif n'arrive pas à esquiver le jugement de Dieu avec tous ses privilèges, à plus forte raison, moi je suis coupable. Je ne peux pas éviter le jugement de Dieu. Et je dois en fermer la bouche. Et donc que j'arrête de me justifier. Après le verset 28 à 18, on est censé imaginer l'accusé qui se lève encore une fois. Mais cette fois-ci, il reconnaît le poids des preuves contre lui. Et il s'assoit. Et il ferme la bouche. Parce qu'il n'y a rien à dire. Et nous aussi, nous sommes censés nous fermer la bouche. Car il n'y a rien à dire. Parce que nous pouvons nous retrouver dans les versets 10 à 18, comme nous nous sommes retrouvés dans ces premiers chapitres de Romains. Nos paroles qui blessent et qui jouent avec la vérité. Nos actions qui trop souvent laissent des dégâts derrière nous. Nos réflexions qui montrent aucune crainte de Dieu. est le fait que nous avons tellement du mal à changer nos habitudes montre que nous sommes sous l'emprise du péché. Alors arrêtons de nous justifier devant Dieu. Arrêtons de nous justifier par nos œuvres. Car voici la conclusion de Paul, verset 20. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Donc la loi de l'Ancien Testament montre le problème du péché, mais l'obéissance à la loi ne règle pas le problème du péché, car le problème du péché est bien trop profond et le jugement de Dieu est bien trop réel. Mais le problème, c'est que nous sommes oublieux et nous minimisons et le problème du péché et la réalité du jugement de Dieu. Et comment ça, Keith? Comment est-ce que nous minimisons le problème du péché et le jugement de Dieu? D'abord, je pense en essayant d'esquiver le jugement de Dieu, tout simplement pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Je pense qu'il est facile de glisser dans le mythe de la personne bonne, sincère. On dit à Dieu, quand même Dieu, il est sincère. On dit à Dieu, oh, quand même Dieu, les gens de la Garenne-Colombe sont sympas. On dit à Dieu, quand même Dieu, au fond, moi je suis pas si mauvais. Les gens ne sont pas si mauvais. Mais tous sont coupables devant Dieu. Et tout le monde sera bouche bée devant Dieu. Alors, devrions-nous être plus rapides à prendre des risques pour atteindre les trois colombes avec la bonne nouvelle, pour atteindre les gens qui nous entourent avec la bonne nouvelle. Je parle à moi-même. Pouvons-nous prier cette semaine pour une personne pour que nous puissions les inviter à venir voir, regarder le film de Luther pour que nous puissions leur parler de l'évangile, les avertir du jugement de Dieu qui vient. Deuxièmement, nous minimisons le péché et le jugement de Dieu quand nous essayons de nous justifier par nos œuvres. Alors si vous êtes en train de vous enquêter sur la foi chrétienne, comprenez bien que nos œuvres ne peuvent pas nous justifier devant Dieu. Nos bonnes œuvres, nos rites religieux ne suffisent pas, ne suffisent jamais pour nous justifier devant Dieu. La seule chose que nous pouvons apporter à Dieu, c'est en quelque sorte notre péché, pour qu'il le pardonne. Mais si vous êtes un chrétien de longue date, je pense que nous pouvons nous aussi tomber dans un cycle de nous justifier par les œuvres. Et voici comment ça marche. Voici comment ça marche peut-être dans la vie de quelqu'un qui s'appelle Pierre ou Pierrette, si vous préférez. Pierre, il s'est reconnu pécheur et en danger du juste jugement de Dieu. Alors, il a confessé son péché. Il a fait confiance à la mort de Jésus à sa place. Et il a commencé la vie chrétienne par la foi. C'est génial. C'est génial. Alors, Pierrette, commence à changer sa vie. Il comprend que c'est bien de prier Dieu, que c'est bien de venir à l'église, que c'est bien de lire la Bible. Pierre évite de boire trop. Pierrette fait attention à sa langue. ça va mieux. Mais alors, Pierre commence à penser que Dieu avait raison de le pardonner. C'est normal qu'il le pardonne, surtout avec le mal que Pierrette se donne pour changer de vie. Mais ensuite, chute. Une soirée entre collègues et Pierre rentre à la maison saoul. Pierrette s'est lâchée avec la langue. Du coup, déprime, c'est la déprime pendant quelques jours. Pas de prière parce que Pierre ne mérite pas de prier Dieu. Il ne mérite pas que Dieu l'écoute. Pas d'église parce que Pierrette a honte de parler avec les gens de ce qui s'est passé. Mais bon, après quelques jours, ça va mieux. Les mémoires sont moins douloureuses. Et ils peuvent aller à l'église sans parler avec les autres. Et le cycle peut se répéter. Le cycle peut se répéter avec plus ou moins de déprime, plus ou moins de rachat personnel, parce qu'on pense que c'est le temps qui nous justifie. Ou on pense que c'est le déprime qui nous justifie. Ou on pense que c'est les œuvres qui nous justifie. Et non, nous avons besoin de reconnaître qu'au début de la vie chrétienne, comme au milieu de la vie chrétienne, comme à la fin, c'est la foi seule en Jésus-Christ seul que nous sommes justifiés devant Dieu. Et donc que j'arrête de me justifier devant Dieu, que je me repose seul. C'est la justification que Dieu donne par la foi seule en Jésus-Christ seul. Et donc dites-vous cette semaine, arrête de te justifier par la foi seule en Jésus-Christ seul. Et nous allons en découvrir plus la semaine prochaine. Mais pour finir, je vais prier l'ensemble de la prière que David a priée. Donc on a déjà parlé de David au verset 4. Et je vais prier le psaume 51 où David reconnaît son péché. Il reconnaît qu'il ne peut rien faire sauf faire confiance au pardon de Dieu. Donc prions ensemble. le psaume 51. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi. Contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen.
matin, peut-être que Paul.